Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h minuit, Louis Bénédit, les aventuriers de l'étrange.
Bonsoir et bienvenue dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio ce soir. Une heure d'émission consacrée à vos témoignages. Si vous avez vécu quelque chose qui vous semble être du domaine du paranormal, eh bien, vous le savez, cette émission et mes invités sont à votre disposition pour répondre à vos questions, vous apporter des éléments de réponse. Morad est au standard pour recueillir vos appels et vous passer à l'antenne. Pour cela, il suffit que vous appeliez le 0826 300 300 dès à présent pour vous inscrire. 0826 300 300. Alors, pour vous écouter et répondre à vos questions, deux invités, Pierre Massias pour commencer. Pierre, bonsoir.
Bonsoir. Louis.
Comment vas-tu ?
Ça va.
Le site se porte bien, le site internet ?
Ça va, on le visite.
On le visite beaucoup ?
Un peu.
Bon, alors il va falloir que ça s'améliore si vous voulez avoir des nouvelles du monde du paranormal. Je vous invite à aller découvrir ce site internet qui s'appelle psyland.org, psyland, psyland.org. Un autre habitué des aventuriers de l'étrange, notamment des soirées consacrées aux témoignages, Renaud Évrard, bonsoir.
Bonsoir.
Comment allez-vous ?
Très bien, très bien.
Bon, merci de nous rejoindre à nouveau pour nous aider à écouter et à répondre aux questions de ceux et celles qui vont nous appeler au 0826 300 300, 0826 300 300 pour nous faire part de leur expérience, de leur vécu, de leur questionnement, de leurs angoisses également. Si vous avez vécu quelque chose de l'ordre du paranormal, vous nous appelez tout de suite au 0826 300 300. Nous répondrons à vos questions. Vous pouvez aussi, vous le savez, réagir par SMS. Vous tapez le mot sud sur votre téléphone portable. Vous laissez un espace. Vous rédigez votre question ou votre commentaire et vous envoyez le tout au 71 200. Il arrivera directement sur l'écran de contrôle que j'ai sous les yeux et je me ferai un plaisir d'être votre porte-parole dans cette émission. 71 200, c'est pour envoyer vos SMS. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit.
Les aventuriers de l'étrange avec Louis Bénédit sur Sud Radio.
Et tout de suite, nous commençons avec un premier témoignage. Il s'agit de Liliane qui nous appelle de Narbonne. Liliane, bonsoir. Merci d'accepter de parler de ce que vous avez vécu il y a quelques années maintenant dans Les Aventuriers de l'étrange. Ma chère Liliane, pour commencer, ça s'est passé il y a combien de temps, ce que vous avez vécu exactement ?
Cela fait 13 ans.
Ça fait 13 ans ?
13 ans.
Ouais. Et ce qu'il y a toujours, enfin ce que je trouve vraiment de surprenant chez tous ceux et celles qui ont vécu quelque chose de l'ordre du paranormal, c'est que ça les a tellement marqués qu'ils s'en souviennent des dizaines d'années après, comme si c'était hier. Ça reste très clair dans votre esprit également ?
Ça reste très clair, mais je ne l'oublierai jamais.
Oui. Alors, racontez-nous un petit peu, c'était une après-midi, hein, c'est ça ?
Après-midi. J'étais allongée sur le canapé comme je le faisais tous les après-midi. Je regardais une émission Et j'avais la chienne qui s'appelle Tina, une ratière coupée de pointeurs, et qui se couchait continuellement sur mes pieds.
Oui.
Et soudain, ce jour-là, elle l'a bondie, elle m'a égratigné les chevilles, et elle a sauté du canapé.
Mm-hmm. Ce qu'elle n'avait pas l'habitude de faire, de réagir
non,
de manière
non,
aussi
non,
vive comme
elle
ça.
Elle était toujours à côté de moi, elle me suivait comme un petit chien, c'est le cas de le dire.
Oui, oui.
Elle m'était très fidèle et je ne pouvais pas faire un pas sans elle. Elle a traversé le salon, elle a traversé la cuisine, elle est sortie de la véranda. Elle s'est mise devant la porte, elle regardait dans l'allée du jardin qui donnait dans la rue. Et c'est une allée qui fait au moins 75 mètres, oui.
Ouais, ouais.
Elle avait les chines toutes raides, elle était très hérissée et elle la voyait, mais méchamment elle la voyait.
Je suis
sortie.
Oui.
Je me suis mise à côté d'elle, je regardais bien ce qui se passait, Il n'y avait pas de chat, il n'y avait pas de chien. Et à ce moment-là, ma chienne aboyait toujours. J'ai vu mon mari qui marchait dans l'allée, le sac en bandoulière. Il revenait du travail. Il était avec habillé vraiment comme il était habillé, un pantalon intégral marron et puis une chemise noire. Il avait toujours les manches retroussées. Il souriait, il montait cette allée.
Et il faut préciser, bien entendu, que votre mari était décédé un an auparavant, c'est
mon
ça?
Mon mari était décédé depuis un an.
Oui, oui.
Oui. Et mon mari remontait donc cette allée, et la chienne, à un moment donné, s'est arrêtée d'aboyer. Elle s'est mise à gémir, et elle tapait sa petite queue par terre, et moi je voyais mon mari qui s'avançait. Je ne pouvais rien faire. J'avais bien envie d'aller à son devant, de le prendre dans mes bras. Je croyais qu'il vraiment était vivant.
Mmh.
J'étais tétanisée, j'avais les pieds qui étaient plombés au sol, je ne pouvais plus bouger. Et ma chienne, elle gémissait, elle avait vu la même chose que moi, il ne lui manquait que la parole.
C'est-à-dire que Tina, votre chienne, regardait dans la même direction que vous, c'est ça
c'est
qui vous avait qui surpris d'ailleurs.
C'est elle qui m'a averti qu'il y avait quelqu'un dans le jardin, c'est elle qui a aboyé. C'est pour ça que je suis sortie.
Ouais.
Et c'est quand je me suis mis à ses côtés que je regardais dans la rue ce qui se passait dans cette allée. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? C'est là que j'ai vu mon mari qui est monté l'allée. Comme tous les soirs, il le faisait, en principe, la chienne allait à son devant. Et au bout de peut-être 3-4 secondes, ça a été assez rapide.
Ouais.
Il était peut-être à 5 ou 6 mètres de nous. De toutes les deux, de ma chienne et moi, l'image a disparu. Je ne le voyais plus, il s'était volatilisé. Et ma chienne s'est mise à pleurer, et puis elle s'est mise contre moi, comme si elle s'est frottée comme pour que je la caresse, que je la réconforte.
Oui.
Et ma mère qui bavardait avec la voisine avait entendu ma chienne aboyer, et elle vient me dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Que se passait-il? Elle n'a pas l'habitude d'aboyer. Qu'est-ce qui lui arrive? Je n'ai pas pu lui répondre. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu as? Elle me dit, bouge un peu, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es blanche. Elle me dit, mais ça va pas. Et je ne pouvais même pas parler. Je pouvais pas lui parler. Elle est arrivée à côté de moi, elle m'a pris par le coude. Et puis là, j'ai commencé à voir le sang qui est revenu en moi. Mais j'ai pu à ce moment-là rentrer. Je suis allée à la maison, je me suis mise dans un fauteuil. Et elle m'a dit, s'est passé quelque chose, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as? Mais réponds-moi, dis-moi quelque chose. Je ne pouvais pas parler. J'avais encore la vision de mon mari.
Mm-hmm.
Je l'avais vu comme il était avant de mourir, parce qu'il est mort en 6 mois. Il a eu une leucémie foudroyante.
Oui.
Et je l'ai suivi jour après jour. Jour après jour, je l'ai suivi dans ces derniers jours, c'est le cas de le dire. Et ce qui est très triste et très terrible, c'est que pendant peut-être 2 ou 3 mois, je n'osais plus partir l'après-midi parce que j'avais l'impression que peut-être l'événement se renouvellerait.
Oui.
Et ça a été quelque chose de terrible en même temps parce que je commençais à avoir le cœur moins triste, je commençais à accepter sa mort et tout est retombé à zéro. Je suis revenue en arrière, j'ai terriblement souffert parce que je me disais, mon Dieu, je commençais juste à cicatriser un petit peu. Et voilà que l'image de mon mari m'a remis dans le bain. J'ai recommencé à vivre tout ce que j'avais vécu avant sa mort. Je n'en ai parlé à personne. Je ne l'ai dit qu'à mon fils aîné.
Et quelle a été sa réaction?
Il m'a pris dans ses bras, il m'a dit, maman, si tu me le dis, il m'a dit, je te connais, je sais que ça doit être vrai.
Ouais. Liliane, votre mari était décédé depuis donc un an.
Un an.
Et parce que ce qu'il y a quand même de très étonnant dans ce témoignage. D'abord, je vous remercie de nous le confier à l'antenne parce que une fois de plus, je le répète, ça permet à ceux ou celles qui ont vécu ce genre de phénomène d'entendre que d'abord ils ne sont pas les seuls et que ensuite ils ne sont pas fous. Ce sont des phénomènes qui se produisent dont la science n'en connaît pas encore la nature, bien entendu. Mais ils ne sont pas seuls. Vous qui nous écoutez, si vous avez vécu ce type de phénomène, vous pouvez nous appeler pour nous en parler, comme Liliane le fait. Vous nous appelez au 0826-300-300 et avec Pierre, Mathias et Renaud Évrard qui sont mes invités, on pourra peut-être essayer de vous apporter quelques éléments de réponse si cela est possible, mais au moins ce message est important et c'est pour ça que je vous remercie, Liliane, de nous confier cette histoire, parce que au moins c'est un message qui veut dire voilà, vous n'êtes pas seul à avoir vécu ça et vous n'avez pas la tête qui tourne à l'envers. Liliane, votre maman n'était pas loin de vous puisque elle a entendu la chienne aboyer, Tina, ce qui l'a alerté quand même. Elle était à combien, est-ce que vous pouvez le dire à peu près?
Il y avait dans le terrain deux maisons, la maison de mes parents,
oui,
et ma maison derrière. Il y a peut-être 5-6 mètres entre l'une et l'autre. Elle bavardait avec la voisine et la voisine elle-même a regardé depuis sa barrière en écartant un petit peu, ce sont des lauriers,
oui,
et
oui,
elle regardait, effectivement, ma mère est venue voir et la voisine est également venue voir. Et ma voisine m'a dit, c'est quand même bizarre parce que la chienne n'aboie pas comme ça. Elle a dû voir vraiment quelque chose de surprenant. Je ne lui ai pas répondu puisque j'étais incapable de parler.
Oui, j'imagine, oui.
J'étais incapable de parler. Je n'ai pas pu parler à ma mère, donc je ne pouvais pas parler à la voisine. Donc elles étaient toutes les deux en train de bavarder quand c'est arrivé. Et de ce jour-là, ma mère me surveillait et elle venait l'après-midi me trouver parce qu'elle se disait, bon, qu'est-ce qui se passe? Ça m'ennuyait davantage qu'autre chose parce que je n'avais plus de toute façon cette espèce de solitude que je recherchais.
Mmh.
Je voulais être seule et mon Dieu, une maman essaie toujours de vous secouer un peu,
oui,
mais au lieu de me secouer, au contraire, elle me rendait encore plus malheureuse et plus malade puisque j'avais moi-même, après le décès de mon mari, été opérée 7 fois en 9 mois.
Mmh. Elle pensait bien faire, j'imagine.
Eh oui.
Oui. Mais votre chienne a réagi d'une manière tout à fait inhabituelle. Je veux dire, ce n'était pas dans son habitude comme ça d'aboyer de manière presque agressive avec l'échine, avec les poils sur l'échine dressés, etc.
Oui.
Elle était effrayée, cette chienne, au départ.
Je pense qu'elle ne s'attendait pas à... Je ne peux pas savoir. Si elle n'avait pas fait ce qu'elle a fait, si elle n'avait pas aboyé de cette façon-là, alors qu'elle n'en avait pas l'habitude, ou elle était sur le canapé avec moi, ou elle était dans sa panière, si elle n'avait pas eu cette réaction d'aboyer avec insistance, ça peut être duré 2-3 minutes, je la laissais aboyer, mais c'est quand ça m'a énervée, je suis sortie, et c'est là que j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal. Sans elle, je ne l'aurais certainement pas vu.
Oui.
C'est elle qui m'a alertée. Et quand j'ai vu mon mari qui montait, j'ai compris pourquoi la chienne aboyait. Et elle, qui normalement allait toujours à son devant, elle est restée scotchée à côté de moi. Elle n'a pas bougé. Elle était tétanisée certainement aussi. Ça faisait un an que le maître avait disparu. Et je pense que de toute façon, elle a été retenue par quelque chose aussi.
Oui.
Je me suis souvent dit, si elle avait pu parler, peut-être qu'elle m'aurait dit qu'elle avait vu la même chose que moi.
Oui, oui. En tout cas, elle a réagi de la même manière que vous au même moment. Ça, c'est une évidence. Donc, elle a vu qu'il se passait quelque chose d'anormal, en tous les cas. Ça, c'est sûr.
Certainement.
Oui. Et alors, dites-moi, cette voisine et votre maman, qui était donc pas très loin de vous, finalement, est-ce qu'elles avaient un angle de vue sur cette allée?
Ma maman, oui, mais pas la voisine.
Oui.
Elle avait, la, ma voisine avait une vue uniquement sur la chienne et moi, parce que l'allée étant très longue, mmh. et comme il y a une barrière, je vous dis, de laurier, mmh. De long du oui. chemin, elle ne pouvait pas le voir.
Ouais. Et votre maman était en train de discuter avec cette voisine.
Oui.
Hein, et elle n'a pas pu apercevoir quoi que ce soit, elle non plus.
Non, puisque lorsqu'elle est arrivée à côté de moi, la vision... où l'apparition avait disparu.
Oui. Et alors, en ce qui concerne, si je puis me permettre, vous poser quelques questions sur cette apparition de votre mari, c'était vraiment comme s'il était là, je veux dire, c'était en couleur, c'était comme si vraiment il remontait l'allée.
Il remontait l'allée, ça je peux le certifier. Il remontait l'allée et il était habillé exactement comme il s'habillait... d'habitude,
oui.
il avait son pantalon en tergale marron parce qu'il ne portait pas de jean. Il avait une chemise noire parce qu'il adorait le noir. Mmh. Il avait sa chemise noire et les manches roulées, retroussées.
Mmh.
Et son sourire, son sac en bandoulière, c'est surtout ça parce qu'il amenait son manger du midi.
Mmh.
Et son linge, parce que c'est changé, il avait un métier très salissant, il était chaudronnier.
Mmh.
Et... tous les soirs, il se douchait avant de partir pour au cas où en chemin il aurait pu avoir un accident. Il avait le droit de se doucher et se changer. Et il mettait donc tout dans son sac et je l'ai vu, je voyais le sac dans son dos, comme quand il marchait. Et c'était lui qui était là. Je n'ai pas pu lui sauter, je n'ai pas pu aller à son devant moi non plus comme des fois je le faisais. Et pour cause, puisque
oui.
de toute façon.
Ah bah, oui, j'imagine bien.
Je ne pouvais plus bouger.
Oui. Je me tourne vers Renaud Évrard. Renaud, est-ce que vous avez une question, un élément peut-être à apporter en plus à ce témoignage de Liliane?
Bonsoir Liliane, en fait. Vous m'avez mis des frissons dans le dos, hein, pourtant j'ai quand même l'habitude. Hein. Vous avez beaucoup d'émotions dans la voix quand vous parlez de ça, c'est touchant. Même si c'est une expérience qui date de longtemps. Et comme disait Louis, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent ces expériences, mais assez peu finalement qui osent en parler. Si on prend vraiment du côté statistique, on a 10% des personnes qui disent avoir vu une apparition au cours de leur vie. Donc déjà, vous n'êtes pas seul. De ce côté-là, donc, est-ce que ce serait pas bien d'en parler à plus de monde et de partager votre expérience, quitte à avoir des échos négatifs, mais c'est une façon aussi de casser sa propre peur finalement et de faire en sorte que l'expérience soit mieux intégrée dans votre vécu, de votre vie en général. Et si j'avais des questions plus particulières, c'est vrai que par rapport au contexte dans lequel est survenue l'expérience, il y a des petits détails que si on voudrait vraiment pousser, on pourrait chercher. C'est par exemple, il me semble que l'apparition a eu lieu le soir, la nuit en fait, c'est ça?
Non, c'est l'après-midi.
L'après-midi.
C'était l'après-midi vers 16h30, c'est à peu près vers 16h30, 17h, c'est à peu près à l'heure où mon mari arrivait en principe.
D'accord, donc c'était bien éclairé, pas de problème là-dessus quoi.
C'était en pleine journée, en plein après-midi, c'était début septembre, il faisait un temps magnifique, c'était un automne extraordinaire et il est évident que je m'en rappellerai toujours.
Est-ce qu'il avait une expression particulière sur le visage ou est-ce qu'il essayait de dire quelque chose ou...
Il avait l'air d'être heureux, il avait un sourire aux lèvres comme d'habitude lorsqu'il rentrait à la maison.
Ah. Et est-ce que c'était une sorte de date anniversaire parce que vous avez dit que ça faisait un an qu'il était mort ou est-ce que vous avez trouvé quelque chose?
Non, absolument pas. Mon mari est décédé le 7 juillet, il a été incinéré le 13 juillet. Par contre, je l'ai gardé le temps qu'il fallait à la maison puisque l'incinération ne pouvait pas être faite plus tôt.
Ouais.
Et j'allais continuellement voir comment il se portait. C'est terrible de le dire. J'allais le voir. Et ce qui me choquait surtout, c'est qu'il bleuissait. Il avait été de toute façon embaumé.
Ouais.
Et là, de certaine façon, vous avez pu reconstruire une image comme il était avant sa mort, mais une image positive de lui.
C'était une belle image, mais je vais vous avouer très honnêtement que j'aurais préféré ne jamais la voir. Parce que d'une part, je m'étais habituée à souffrir. D'autre part, je voulais vivre encore une autre vie.
Mm-hmm.
Mes enfants me disaient toujours qu'il fallait que je bouge, que je sorte et je ne voulais plus le faire. J'attendais, J'attendais qu'il y ait encore un autre appel. Je croyais que peut-être j'allais encore de temps en temps avoir cette apparition. Mmh. Et ça, c'est ce qui m'a choqué le plus. Et je me suis promis de ne plus... Enfin, je ne voulais pas raconter ça. Je me suis promis de ne jamais aller voir une cartomancienne ou de ne pas faire attention du tout à ce qui se passait avec les astrologues. J'ai dit, je préfère vivre dans l'incertitude. Je préfère vivre au jour le jour que de savoir ce qui va peut-être m'arriver. Parce que je ne vivais plus. Mm-hmm. Je ne sortais plus parce que j'avais encore envie de le voir.
Oui. Liliane... L'interprétation, évidemment, de ce genre de phénomène ou de signe est vraiment très difficile, mais est-ce que vous ne pensez pas que c'était peut-être une sorte de revoir de message disant je vais bien là où je suis souriant, je suis entre guillemets bien portant, et voilà ce petit signe, vous ne croyez pas?
Je suis une non-croyante à l'heure actuelle et je ne peux pas vous répondre.
Oui.
Je pense que c'est un phénomène qui est arrivé involontairement. C'est une chose qui m'est arrivée et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas en parler par pudeur. Et je n'en ai pas parlé autour de moi parce que j'ai peur que l'on me prenne pour une dingue, comme vous le dites si bien. Il y a des choses qu'on préfère garder secrètes.
Oui. Vous restez avec nous, Liliane, une première pause et on va se retrouver dans quelques instants, toujours avec vous. Pierre Macias voudrait également réagir, peut-être vous poser quelques questions. Renaud également, bien entendu. Quant à vous qui nous écoutez, si vous avez vécu quelque chose qui est de l'ordre du paranormal, comme Liliane, si vous vous posez des questions fort justement, si vous avez des angoisses, eh bien, appelez-nous 0826 300 300 0826 300 300. Morad est au standard pour recueillir vos appels et puis surtout pour que vous compreniez bien que ce sont des phénomènes que la science n'explique pas encore, mais que plusieurs dizaines de milliers d'êtres humains les vivent également et que vous n'êtes pas seul. 0826 300 300.
Les aventuriers de l'étrange avec Louis Bénédi sur Sud Radio.
Et Liliane qui nous appelle de Narbonne, qui nous a fait part, je vous en remercie encore Liliane de ce témoignage très poignant, pour continuer à essayer de comprendre ce que vous avez vécu, Liliane. Renaud Évrard, est-ce que on peut dire que le fait que Tina, la chienne donc fidèle de Liliane, entérine le fait qu'il s'est réellement passé quelque chose de pas normal?
Ben oui, forcément, enfin, je veux dire, ça fait partie, on peut pas le nier dans ce cas-là. Après, on peut pas vraiment savoir en plus ce que la chienne a vu ou ce qu'elle a fait ou quelle part elle a pris non plus dans l'induction de ce phénomène. Son comportement qui est étrange de sortir dans la rue, ça veut pas dire forcément qu'elle a vu quelqu'un. Elle a pu avoir un comportement étrange totalement animal. Et de notre côté, en même temps, ça a peut-être créé une peur ou une attente du côté de sa maîtresse, dans ce cas-là Liliane, qui a pu entériner l'apparition pour Liliane, pas forcément pour la chienne. Mais en même temps, c'est quelque chose qu'on peut pas résoudre dans ce cas-là, quoi. Je pense que ça joue de toute façon pour Liliane, pour la conforter dans sa vision de ce côté-là. Après, c'est vrai que vous avez posé des questions pour savoir si un autre être humain, comme la maman, avait pu voir quelque chose, mais c'est vrai que dans les cas des apparitions, ils peuvent apparaître pour certaines personnes et pas pour d'autres qui sont pourtant à côté, quoi.
Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il ne peut y avoir qu'une seule personne, des fois, qui la voit, même si elle est entourée par d'autres personnes.
Ça va même beaucoup plus loin. Il y a certaines personnes qui, dans une même pièce, vont voir la même apparition, mais habillées différemment. Ou alors quelqu'un va la voir, l'autre va l'entendre, l'autre va la toucher, et pourtant ce serait la même apparition.
Ouais. Pierre Macias.
Bonsoir Liliane. Comme le disait Louis tout à l'heure, effectivement c'était un témoignage très prenant que vous nous avez fait, qui doit concerner, je pense, pas mal de monde à l'écoute. À propos de la période de l'apparition, je me demande, enfin, votre témoignage rentre tout à fait dans le cadre des apparitions. On a des histoires, je dirais, de personnes qui voient des personnages, des apparitions, des gens de leur famille, plus ou moins éloignés, éventuellement décédés. J'ai en tête, je vais sans doute dire une bêtise, mais il me semble que Augustin le Sage n'est pas sans rapport avec une apparition de ce type-là avec une enfant. Si c'est pas lui, ce sera un autre. Donc, pour le moment de l'apparition, la période de un an, il me semble que dans les rites chrétiens, je suis pas croyant moi non plus. Je connais très mal les mm-hmm. messes et les protocoles, mais il me semble que un an après, on doit faire une deuxième messe pour un décédé.
Oui.
Ça correspond à une période bien précise. Mm.
Liliane, est-ce qu'il y a eu une messe pour l'enterrement de votre époux ?
Oui, il y a eu une messe.
Et il n'y a pas eu de seconde messe un an après ?
Non, absolument pas.
D'accord. Mm. Bon. Peut-être je me trompe. J'ai ça en tête, en tout cas.
Ouais.
Mais ce que je veux dire, c'est que ma chienne n'était pas dans la rue, n'est pas sortie.
Oui, oui, elle était... Oui.
Elle était...
Au bord de la maison.
Au bord de la maison.
Et au bord de l'allée.
La rue se ouais. trouvait à 75 mètres.
Oui, oui, oui. Et est-ce que vous avez vécu, à partir de là, d'autres phénomènes un peu étranges, ayant un lien, une relation avec votre époux ?
Non, jamais. Ça n'a été qu'une seule fois.
Oui.
Je pensais que peut-être j'allais, à l'époque... que peut-être j'allais encore revivre le même événement, mais non, ça ne s'est pas reproduit. Et il est fort possible que je maintenais aussi la chienne à l'intérieur, puisque l'automne était fini. Oui. Je serais c'est quand même 2 mois très perturbée.
Mmh. On le saura, moi. Pierre Macias.
Oui, le comportement de la chienne, bon, si on essaye de rationaliser, je vais dire, votre vécu, on va pouvoir imaginer des jeux de relations entre votre chienne et vous, entre le fait que votre chienne réagisse pour une raison quelconque et que vous, derrière, à la suite, profitiez de cette occasion-là pour coller un événement spécifique, ou vice-versa. Vous-même, à un moment donné, vous avez un souvenir, je vais dire, de votre mari que vous exprimez de cette manière-là, et la chienne qui entérine votre comportement, qui ressent votre comportement et qui va aller dans ce sens-là. Mm-hmm. On peut imaginer... plein d'hypothèses qui ne satisferont pas forcément. J'aimerais plutôt rester au niveau du témoignage, sans forcément rentrer dans une explication qu'on voudra scientifique ou rationnelle, mais peut-être pas une explication, mais une compréhension à titre personnel.
Moi, ce que je trouve aussi intéressant dans votre témoignage, c'est que par la suite, Liliane n'a pas cherché à rentrer dans une croyance quelconque ou à consulter un praticien qui pourrait l'amener justement à dépasser ce vécu difficile, car unique, car c'est un peu cruel en fait. Il y a une seule apparition. Mais il existe en fait des thérapeutes qui sont formés justement à un truc assez spécifique qui s'appelle le psychomontaillon. Et ça consiste à mettre des personnes qui ont perdu un proche et qui ont envie de revoir une apparition de ce proche dans une petite salle avec un grand miroir pendant une demi-heure, par exemple, et les personnes sont seules avec ce miroir, avec parfois une musique, c'est une ambiance très simpliste, hein, en même temps assez spéciale, et il y a à peu près un assez grand pourcentage, une personne sur deux, en fait, mm-hmm. qui vont revoir une apparition du proche en question ou d'autres hallucinations un peu bizarres, mais qui ça leur permet aussi de développer ce vécu qui, j'imagine... Quand on le vit une seule fois, on ne comprend pas et on ne se l'explique pas. Et ça peut être très difficile, comme le montre Liliane. En fait.
Mm-hmm. Oui, ce sont des expériences qui viennent des États-Unis, je crois. Hein.
Ça a été développé effectivement par Raymond Moody, mais
c'est
aussi en France.
Ouais.
Mm-hmm. Oui, c'était repris, c'était expérimenté par George C. Ahmed et Evelyne Sarmercier, avec des résultats pas forcément dans le même sens ou de même amplitude que ceux de Moody. Et en plus, c'est la pratique de ce genre d'expérimentation se fait à un niveau je suis pas psychanalyste, mais elle se fait au niveau de la psychanalyse et d'entrée va à l'encontre de certaines règles de la pratique psychanalytique.
Alors, si je puis me permettre une question, les animaux, en règle générale, est-ce qu'on connaît des cas, là je pose la question à toi Pierre et à Renaud, est-ce qu'on on connaît des cas d'animaux qui réagissent, qui ont réagi à des phénomènes d'apparition, Renaud?
Oui, oui, effectivement, ça arrive beaucoup, mais il faut forcément qu'il y ait un humain à côté qui
bien
observe
sûr.
L'animal.
Ouais.
Mm-hmm. Donc dans ce cas-là, on est toujours dans un cercle vicieux de ne pas savoir qui a induit quoi, en fait.
Mm-hmm.
Par contre, il y a des expériences qui ont pu être faites sur des personnes qui arrivaient à vivre des décorporations, à les provoquer, en fait.
Ouais.
Et on mettait un animal dans une autre pièce,
mm-hmm.
et la personne qui faisait la décorporation essayait de voyager dans l'autre pièce, et on pouvait observer le comportement de l'animal qui changeait en fonction de la présence de la personne imaginaire, en fait.
Mm-hmm.
Et donc, ces expériences-là ont eu des résultats positifs. C'est Robert Morris et Harari qui ont mené ça en Angleterre. Donc, ça, c'est une piste intéressante. En fait.
Ouais. En tout cas, Pierre Mathias.
Oui, je voudrais revenir sur la réponse qu'on vient de donner à Liliane. En fait, ça ne s'est produit qu'une fois. Vous en avez eu très peur, vous avez été très très impressionné par cette apparition. Moi je me demande si en fait, et les gens qui me côtoient savent que je ne suis pas partisan, forcément du moins partisan ou aussi facilement partisan de la survie, mais peut-être que vous pourriez envisager cette apparition comme un dernier au revoir de votre mari à un moment donné. Souvenez-vous, vous nous l'avez décrit habillé comme d'habitude, et il y a un mot que j'ai retenu, c'est son sourire.
Ouais.
Il venait pas de manière agressive.
Mm-hmm.
C'est pas le fantôme qui vient vous attaquer. C'est pas le fantôme qui vient vous tirer par les pieds tous les soirs. Ça ne s'est produit qu'une fois avec le sourire. Il est apparu comme il était d'habitude. C'est peut-être peut-être qu'à niveau personnel, vous pourriez le prendre comme un dernier au revoir. Et en fait, ça n'implique pas de peur.
Mmh.
Mais
un joli geste d'amour, quoi.
Voilà, tout à fait, un joli geste d'amour.
Mmh. Liliane,
oui.
Je vous remercie en tout cas de nous avoir, d'avoir eu la gentillesse et le courage de franchir le pas et de nous confier ce témoignage précieux qui, je l'espère, va pouvoir, comment dirais-je, envoyez ce joli message à ceux et celles qui l'ont vécu. Vous n'êtes pas seul et vous n'êtes pas fou. Et ce sont encore des phénomènes que la science n'explique pas, mais qui existent. Merci beaucoup pour ça, Liliane.
Je vous en prie, au revoir.
Je vous souhaite une excellente soirée.
Je vous remercie également, vous aussi.
Merci, Liliane. À très bientôt. Liliane, donc, qui nous appelait de Narbonne, un deuxième témoignage qui va un petit peu dans ce sens. Il s'agit de celui d'Alexis qui nous rejoint. Bonsoir, Alexis. Allô, Alexis? Oui, bonsoir. Vous nous appelez d'où ?
De Toulouse.
Vous nous appelez de Toulouse. Et alors vous, vous avez appelé dès que vous avez entendu le
oui.
témoignage de Liliane parce que vous vivez aussi, vous avez vécu ce genre de phénomène.
Oui, mais c'est surtout pour rassurer Liliane en fait.
Oui.
Pour la rassurer, c'est des phénomènes normaux. Enfin, moi je les connais depuis que je suis petit en fait.
Mm-hmm.
Depuis que je suis petit, je commençais à avoir pas mal d'apparitions en fait dans ma maison où je vivais quand j'étais petit enfant.
Oui.
Et je me souviens quand ma tante est décédée, ainsi mon cousin, j'ai eu pas mal de gens proches qui sont décédés à une période.
Ouais.
Et j'ai ma tante qui venait me parler la nuit clairement, en fait. Alors, toi, je l'entendais, et puis ça me rendait triste étant petit. Donc je ne voulais plus entendre ça. Et donc depuis, je n'ai pas entendu ça pendant des années, quoi, en fait.
Ouais.
Putain.
Et vous dites que votre tante venait vous parler la nuit, est-ce que vous étiez réveillé ou endormi?
J'allais m'endormir, en fait.
D'accord, vous étiez entre deux eaux, comme on dit, quoi, vraiment, pas complètement
voilà,
réveillé,
voilà.
Pas encore endormi.
Je me dirais quelque part.
Ouais. Allô?
Oui, allô, attendez, excusez-moi.
Non, je vous en prie. Ah,
voilà.
Vous êtes en voiture, c'est pour ça.
Oui, c'est pour ça.
Ah ouais. Et quels sont les autres phénomènes d'apparition que vous avez vécu récemment, par exemple?
C'est revenu il y a quelques années.
Mm-hmm.
Donc le magnétisme est revenu, ainsi que des prémonitions, tout ce que je vois les gens comme... les voyants, des cartomanciens ou autres,
mmh.
ça revient petit à petit, donc j'ai des prémonitions, des flashs, et m'arrive de ressentir comme un magnétisme, les présences, les entendre dans ma tête, et aussi récemment commencer à les voir, avec les yeux, quoi, visuellement.
Oui. C'est-à-dire, aller voir, ils vous apparaissent comment?
Non, c'est bon, il n'y a pas de problème. Voilà, excuse-moi. Excusez-moi, excusez-moi. Là.
Non, je vous en prie. Voilà. Quand vous les voyez de quelle manière? Ils apparaissent comment?
C'est rare, soit ce sont des gens souriants, ils regardent clairement, et puis après, enfin, je les ressens déjà dans mon cœur et puis le magnétisme. Mm-hmm. C'est des gens bien qu'on peut croiser comme ça, et puis après, on se retourne, on ne les voit plus, on les croise en fait.
Oui.
Ils apparaissent normalement comme des gens comme de tous les jours en fait.
Oui, et c'est très fugitif.
C'est assez fugitif.
Mm-hmm. Et est-ce qu'il y a un dialogue qui s'établit de temps en temps des
oui, oui, par rapport à ma vie personnelle aussi.
Mm-hmm.
Souvent, les gens sont là pour, comme on ressent, pour nous guider un petit peu, pour nous aider continuellement en fait.
Oui.
Je sais que j'ai perdu ma petite amie il y a quelques mois.
Oui.
Ça n'a pas été facile, mais elle venait pour me répondre à mes regrets, à mes pleurs, à mes tristesses, quoi.
Oui. Quand vous dites que vous l'avez perdue, c'est-à-dire qu'elle est décédée, hein, c'est
elle
ça?
Elle est décédée, oui.
Oui, oui. Et donc, combien de temps après avez-vous eu ce contact
Moi, je l'ai eu le lendemain de sa mort. Parce que j'étais très triste, elle est juste venue me dire au revoir.
Oui.
Et que ça allait bien, que voilà.
Ça s'est passé de quelle manière? Est-ce que vous vous en souvenez?
Ah, j'étais très très mal. J'étais très très mal. J'étais en larmes, j'étais une colère, une énergie, une colère, une haine.
Mm-hmm.
Et j'étais mal, j'étais dehors, tout seul dans la rue. Et là, j'ai senti sa présence arriver et me parler.
Sans que vous ne la voyiez, hein?
Sans que je la vois. Non, je ne la vois pas. Je ne l'ai toujours pas vue. Je vois d'autres gens parfois, mais je ne la vois toujours pas, elle.
Mm-hmm. Et à travers cette expérience, qu'est-ce que vous en retirez comme enseignement? Je veux dire, est-ce que la mort vous fait peur ou
Non, pas du tout. Pas du tout. Depuis tout le temps, je sais qu'après la mort, on passe à autre chose, mais qu'il faut être préparé à y être, en fait.
Mm-hmm.
Il faut être prêt pour y accéder.
Oui. Je me tourne vers Renaud Évrard. Est-ce que vous avez des questions ou une réaction face à cette multiplicité des phénomènes?
Je crois qu'ils ont toujours existé depuis des milliers d'années. Enfin, c'est quelque chose qui est propre à chaque être humain. C'est juste que notre façon de notre éducation, la façon dont l'intelligence humaine est un peu orientée, très matérielle au final, on néglige l'aspect spirituel de ce qu'on ressent, ce qui va au-delà de nos sens.
Mmh. Vous savez, il m'a volé ma réponse.
Oui.
Bonsoir Alexis.
Bonsoir.
C'est effectivement ce que je tenais à dire. C'est vrai que c'est des expériences qui ont existé dans toutes les cultures depuis tous les temps et il y a eu différents modèles d'interprétation. Il y a des modèles qui sont moins dangereux que d'autres. Et dans ce cas-là, dans le cas d'Alexis, ça me semble bien pris. C'est une bonne piste de dialogue concernant la vie personnelle, de guide. Ça me semble pas du tout pris dans un délire, dans une crainte.
Mmh.
Et donc, je le remercie d'avoir témoigné de cet abord positif, en fait.
Oui, tout à fait. Merci en tout cas, Alexis, donc, de nous avoir confié également ce témoignage. Si vous aussi, vous avez vécu quelque chose de l'ordre, qui vous semble être de l'ordre du paranormal, vous nous appelez au 0826 300 300. Morad est au standard pour recueillir vos témoignages. Vous pouvez également nous envoyer des témoignages, mais des réactions, des questions, des commentaires par SMS. Vous tapez le mot sud, vous laissez un espace, vous rédigez votre commentaire et vous l'envoyez au 71 200. On vient de recevoir un SMS signé de Lynn qui dit: bonsoir, j'ai eu un phénomène quand quelqu'un a touché ma tête par derrière comme une main qui me caresse. Je me suis retourné, il n'y avait personne, et 3 jours après mon mari a eu un accident et grâce à Dieu il a été protégé. Signé Marilyn. Envoyez-nous si vous nous envoyez ce type de témoignage. N'oubliez pas de nous joindre également votre numéro de téléphone pour que vous puissiez intervenir sur notre antenne dans Les Aventuriers de l'Étrange. Soirée spéciale consacrée aux témoignages jusqu'à minuit. Restez avec nous, dans quelques minutes, c'est Christelle qui va venir nous rejoindre.
Les Aventuriers de l'Étrange, avec Louis Bénédit sur Sud Radio.
Soirée consacrée à vos témoignages. Si vous avez vécu quelque chose de l'ordre du paranormal, appelez-nous comme Alexis l'ont fait, comme Liliane également, au 0826 300 300 0826 300 300. Vous pouvez également, je vous l'ai dit, intervenir par SMS. Vous tapez sud sur votre portable, vous laissez un espace, vous envoyez votre réaction, votre commentaire au 71 200. D'ailleurs, un SMS vient d'arriver en disant: bonsoir, pouvez-vous faire une émission sur l'astrologie prochainement ? C'est Isabelle d'Avignon qui nous envoie ce SMS. C'est une bonne idée. On va y réfléchir avec Pierre Massias et trouver le bon intervenant pour parler d'astrologie. C'est effectivement quelque chose, un dossier qui est passionnant parce que avec un système astronomique qui n'a rien à voir avec le vrai système astronomique, les astrologues réussissent à obtenir des résultats assez intéressants concernant l'étude des personnalités. Donc, on va se pencher sur ce dossier, ma chère Isabelle, qui nous avait envoyé ce SMS d'Avignon. Christelle, bonsoir.
Bonsoir.
Vous nous appelez d'où, Christelle ?
De Castelldoha, des Pyrénées-Atlantiques.
Des Pyrénées-Atlantiques. Très bien. Alors, Christelle, vous, ce que vous avez vécu, c'est passé il y a combien de temps ?
Oh là là, en 1984.
Oui. Donc, ce n'est pas hier. Effectivement, non, c'est avant-hier.
Hein.
Et qu'est-ce que vous avez vécu et dans quelles circonstances ? Racontez-nous.
Alors,
ça.
J'ai fréquenté, bien sûr, un garçon que j'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je ne savais pas si c'était réciproque ou non. Mais soit, parfois, il me disait, tu me portes chance. Tu me portes chance. Alors, donc, j'ignorais ce qu'il voulait me dire, quoi, hein, par tu me portes chance. Et puis des fois, je demandais à ma mère, quoi. Je disais, mais qu'est-ce qu'il veut me dire par « tu me portes chance ». Et elle ignorait aussi ce qu'il voulait me dire. Puis le 1er mai 1984, je me dispute avec lui et je lui dis « ne viens plus m'ennuyer ». Et le 4 mai, trois jours après, il se suicide d'une balle dans la bouche.
Ah oui.
Mais j'étais à une vingtaine de kilomètres du lieu où il s'est suicidé.
Oui.
Et je l'ai vu dans ma tête, qui me disait je n'aurais pu t'ennuyer. Et il s'est, enfin, ça s'était révélé juste, il s'était vraiment flingué, quoi.
C'est-à-dire, vous étiez où à ce moment-là ? Vous dites à 20 kilomètres du lieu.
J'étais près de Maubeuge, enfin dans le nord, je ne sais pas si vous voyez.
Oui, oui. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est, est-ce que vous étiez en train de travailler ? Vous étiez en voiture ? Qu'est-ce que vous faisiez à ce moment ?
Non, j'étais avec ma grand-mère, qui était indienne à l'époque, et je vais voir un oncle, si vous voulez, un oncle, et qui était à l'hôpital, et on était lui rendre visite, et pendant tout cet après-midi-là, je voyais Jean, donc mon amoureux, si vous voulez.
Oui.
Et je le voyais dans ma tête, où il disait, je ne verrais plus t'ennuyer, d'accord, et où il se fichait une balle dans la bouche.
Ah oui, vous l'avez vu dans votre esprit, vous l'avez vu, et donc, la première fois que vous avez eu cette image dans la tête, vous vous êtes dit quoi ? Oh, c'est moi qui invente, c'est moi qui fabule, des choses comme ça ?
Non, 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 je ne me suis pas dit ça. Absolument pas. Je l'ai vu pointer l'arme dans la bouche, je l'ai vu tirer, je n'aurais pu t'ennuyer, j'entendais ces mots, et bon, c'est vrai que ça paraît surréaliste, mais cela dit, quand je suis rentrée chez mes parents, maman, la première nouvelle qu'elle m'annonçait, c'est en me disant, il est arrivé un grand malheur. Alors je lui ai dit, elle me répond pas. Je lui dis dans le village, elle me répond pas. Alors je lui dis rétorque, c'est à Écarmin, dans le village du Nord, quoi, dans un
oui,
village
oui.
Du Nord. Et je lui dis c'est Jean, maman. Hein. Et elle me dit oui. Je dis maman, il s'est tué d'une balle dans la bouche. Alors maman, elle me rétorque, mais comment tu sais ? Je ne pouvais pas le savoir. Si. Dans ma tête, si vous voulez. Vous comprenez ? Je ne l'ai pas appris d'autres personnes. Je l'avais vu dans ma tête. C'était dingue. Dingue. Mais tout ce que j'avais vu dans l'après-midi, c'était produit.
Et est-ce que vous avez pu établir, je ne sais pas, vous avez eu connaissance, par exemple, de l'heure à laquelle il s'est suicidé. Est-ce que ça correspondait au moment où vous avez eu ce flash dans la tête à 20 kilomètres de là ?
Je ne dirais pas au moment précis, je n'en sais absolument rien. Cela dit, dans l'après-midi, j'étais du côté de Maubeuge, dans le nord, dans un hôpital où je voulais voir un oncle, et je voyais Jean, mon amoureux, si vous voulez. voulez, mais ça se passait dans l'après-midi de toute façon. C'était vraiment dans les heures, vous comprenez?
Oui.
Par exemple, si c'était suicidé à 15 heures, je sais pas, moi, j'ai eu jusqu'à 17 heures, c'était des flashs qui s'imposaient à moi, vous comprenez?
Oui, tout à fait, oui. Renaud Évrard, est-ce que un geste dramatique comme celui-là peut créer, alors je vais employer un terme sûrement qui n'a rien de scientifique, mais une résonance, vous savez, qui va heurter ceux et celles qui sont proches de la personne?
Effectivement des cas qui se produisent très souvent. Alors c'est vrai que parler de résonance, c'est un peu compliqué.
C'est pas le bon mot, j'imagine.
C'est une coïncidence.
Oui.
C'est-à-dire que c'est vraiment deux événements qui se passent en même temps, mais qu'à cause de la distance spatiale, on ne peut pas affirmer que l'un a provoqué l'autre, en fait.
Oui. Mmh.
C'est une sorte de corrélation, c'est un lien qu'on ne peut pas expliquer, et on peut faire juste des suppositions, des hypothèses, mais ça reste d'une certaine manière assez irrésolu. On peut pas en juger plus que ça, on peut simplement discuter avec Christelle, bonsoir.
Mmh. Bonsoir.
Pour savoir comment finalement elle vit la chose après coup et quelle explication elle-même on s'en donne, quoi, en fait.
Quelle a été votre explication à vous? C'est un message qu'il a vu vous envoyer, à votre avis, Christelle?
Oui, j'en suis persuadée parce que quelques jours après, parce que bon, évidemment, il y a personne qui va de bon cœur dans des enterrements. Et 8 mai 84, je crois que c'est son enterrement. Et quelques jours après, je m'y rends aussi. Je me rappelle devant sa tombe et je fais un signe de croix. Enfin, je n'aime pas prier. Hein, je suis pas très grenouille de bénitier, quoi. Mmh. Et je fais mon signe de croix et puis je dis à Jean, je lui dis je t'aime, quoi. Et j'ai senti une sorte de fierté. Très fort en moi. C'est bizarroïde, mais c'est comme ça. Quelque chose d'orgueil. C'était bizarroïde, ce que je ressentais. Et d'un coup, je me retourne, enfin, mon visage, enfin, c'était la campagne, et je vois des gens qui me remarquaient, qui me remarquaient sur la tombe de Jean, quoi, hein.
Mmh, mmh.
Et c'était comme si que Jean me transmettait le message en me disant, mais merde, il était très fier que j'arrivais à sa tombe, que je venais lui rendre visite.
Oui.
Mmh. Que les gens me regardaient. C'était bizarroïde. Mmh. Enfin, pour moi, c'est des phénomènes paranormaux parce que c'est surnaturel, quoi, ouais. Je trouve.
Dites-moi, Christelle, quand Jean a commis son acte irréparable, il était chez lui?
Oui, il était chez lui.
Oui. Et donc, à peu près, c'est ça, oui, à une vingtaine de kilomètres là où vous étiez au même moment, quoi.
D'accord, au même moment où j'ai vu son suicide, où il me disait, ben d'accord, je ne voudrais plus t'ennuyer. C'était le 1er mai 1984,
ouais.
Et le 4 mai, il suicidait, quoi. Et je le voyais qui me disait, je ne viendrai plus t'ennuyer.
Pierre Macias.
Oui, bonsoir Christelle.
Bonsoir.
Vous nous témoignez là vraiment d'un phénomène de voyance, qu'on appelle voyance, qui est le fait de voir une scène à distance, contrairement à l'utilisation courante. Cela dit, on remarque souvent que ces phénomènes apparaissent à des moments graves, stressants, le plus souvent malheureux. Pas toujours,
oui.
Mais le plus souvent.
Oui.
Et ils s'expriment un petit peu comme ils peuvent, je dirais. C'est-à-dire ce que l'on sait de la voyance, de l'approche qu'on a du phénomène de voyance, c'est qu'on a un flash, enfin la personne qui se trouve dans la position de voyant, à un moment, a un flash, un ressenti, qui va être plus ou moins précis, et donc qui va nécessiter une reconstruction du témoignage. Alors, on peut.
C'est-à-dire que le cerveau va reconstruire avec les informations qu'il reçoit.
Voilà.
Soit une image, soit un son, soit quelque chose, c'est ça.
Voilà. Et il va le reconstruire en utilisant les outils dont il dispose.
Ouais.
Un petit peu comme je disais la semaine dernière, on a les yeux, il faut reconstruire l'information que fournit les yeux, les oreilles, etc. Et d'ailleurs, l'une des directions de l'expérimentation en parapsychologie à l'heure actuelle, c'était d'essayer de retirer tous ces filtres d'interprétation pour accéder à l'information paranormale au plus près, dans sa forme la plus brute. Donc on essaye d'isoler un petit peu, d'isoler le sujet, de l'isoler sensoriellement, le but du jeu étant d'éliminer tous ces filtres. Donc si je reviens au phénomène de voyance, de ressenti, comme l'a ressenti Christelle,
ouais.
Il est tout à fait possible que vous ayez eu une information donc de l'acte de votre ami, de votre ex-ami à ce moment-là.
De Jean.
Que dans toute la vision que vous ayez eue, un certain nombre de choses aient été reconstruites.
Oui,
pas forcément de manière juste.
Tout à fait. Merci en tout cas, Christelle, de nous avoir confié ce témoignage. 0826 300 300, il nous reste encore quelques minutes à passer ensemble. Vous nous appelez à notre standard. Morad est là pour recueillir vos appels. Si vous ne passez pas ce soir, n'ayez crainte, nous gardons vos coordonnées, nous vous rappellerons pour que nous puissions discuter ensemble, bien entendu, avant et pendant et après l'émission. 0826 300 300, Marie-France va venir nous rejoindre juste après la pause.
Sud Radio, les aventuriers de l'étrange, avec Louis Bénédi sur Sud Radio.
Demain, vous le savez, on se retrouvera pour une émission à partir de 22h jusqu'à minuit et nous aborderons un dossier passionnant. Pour la deuxième fois, nous l'avons abordé dans la saison 1 des Aventuriers de l'étrange. Là, nous allons réouvrir ce dossier. Nous parlerons du Suaire de Turin avec une enquête historique et scientifique vraiment de première main, très intéressante, qui a été réalisée par deux scientifiques. Un des deux scientifiques sera avec nous. Il s'agit d'André Marion, qui est un spécialiste de l'imagerie et du traitement d'image. Il sera avec nous pour nous faire part des derniers résultats des recherches scientifiques concernant le Suaire de Turin. Marie-France, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous nous appelez d'où, Marie-France?
Je vous appelle de Saint-Georges-d'Yonne, tout près de Royan.
Très bien. Oh, c'est très haut, ça, effectivement.
Oui.
Alors, dites-nous, Marie-France, vous avez vécu, semble-t-il, un coma, c'est ça?
Oui, j'ai eu un coma en 85, suite à un accident.
Ouais.
J'ai eu un coma de 5 jours.
Ah oui,
oui, dans mon coma, je me souviens, c'était une immense pièce, un long couloir, beaucoup de lumière, et j'avais le médecin près de moi, en blouse blanche, et là j'ai retrouvé tous les gens que j'avais connus sur Terre et qui étaient décédés, ils étaient tous autour de moi. Je planais, j'étais très heureuse, mais eux ils étaient très tristes de me voir ici.
Ouais.
Parce que mes enfants étaient très jeunes à l'époque.
Ouais. Mais alors, dites-moi, Marie-France, une question comme ça qui me vient tout de suite à l'esprit. Quand vous êtes sortie de votre coma,
oui.
Vous aviez ce souvenir?
Oui, j'ai toujours gardé ce souvenir, tout le temps. Mais pas aussitôt après, c'est après ça m'est venu, je me suis rappelée toujours de ça m'a vraiment marqué.
Ouais.
Que j'ai vu tous les gens que j'avais connus, dont mes grands-parents, mes grands-mères et tout ça, il y a une grand-mère qui guérissait d'ailleurs.
Oui.
Tous les gens que j'ai connus, que j'ai aimés, étaient autour de moi.
Et qui étaient décédés, hein, c'est ça?
Oui, ils étaient tous décédés.
Oui.
Et là, ils étaient autour de moi, je les ai retrouvés, c'est merveilleux.
Alors, racontez-nous, décrivez-nous cette pièce dans laquelle vous étiez. Ça ressemblait à quoi? Une pièce normale, je dirais?
Oui,
blanche.
Oui, moi, c'est comme si j'étais dans un grand hôpital, hein. Il y avait le médecin près de moi en blouse blanche.
Oui.
Mais c'était immense et j'avais tout autour, j'avais tous ces dessins que j'ai retrouvés. J'étais très heureuse de retrouver. Et voilà ce que je me rappelle simplement.
Oui.
Mais suite à ça, quand je suis attirée, quoi, c'est le cas de le dire, j'ai eu plein de choses. Je ne suis plus la même femme. Et il y a des choses beaucoup qui sont dues à porter, puisque tous les rêves préhistoires que j'ai eus depuis se sont tous révélés exacts et je sais très bien les interpréter.
C'est-à-dire que vous vivez des rêves prémonitoires à partir de cet événement, de ce coma que vous avez vécu.
Depuis ça, oui. Et le premier rêve ne me concernait pas du tout puisqu'il s'agissait d'un petit garçon. J'ai rêvé pendant 8 jours d'un petit garçon qui allait se faire tuer et je me demandais pourquoi je rêvais de ça et... 8 jours après, à l'endroit où je me trouvais en montagne, dans les Pyrénées, la Saint-Sauveur, j'avais un couple de personnes âgées qui me parlaient toujours de leur petit-fils. Et ce soir-là, ils ont été à la cabine téléphonique pour voir le retour du petit-fils. Et textuellement, comme j'avais rêvé, il s'est fait tuer sur l'autoroute avec les parents. Et c'était une nuit horrible, quoi, à l'hôtel.
Oui,
Et moi, c'est le premier rêve que j'ai fait. Après, toujours les rêves que j'ai eus prémonitoires m'ont prévenu beaucoup sur ma famille, mes petits-enfants, même à distance. Et alors, je sais toujours les interpréter.
Et alors, dites-moi, ces personnes décédées qui se trouvaient autour de vous, là, je reviens à votre période durant le coma, vous avez eu des dialogues avec eux vous avez
Non, ils me regardaient tous. Ouais. Ils étaient très tristes.
Ouais.
Et moi, j'étais très heureuse, je planais, j'étais très heureuse. Et eux, je me dis, mais pourquoi ils sont... En fin de compte, j'avais pas ma place là-haut, puisque mes enfants étaient très jeunes, ils avaient besoin de moi.
Ouais.
C'est pour ça que je suis revenue, je pense.
Et sans angoisse particulière, je veux dire, pendant ce...
Aucune. Au contraire. Et j'ai plus peur de la mort du tout.
Ouais.
Et j'étais assistante de vie auprès de personnes très malades. J'ai fait ça pendant 20 ans.
Ouais.
J'ai appris plein de choses dans ce métier et je comprends pourquoi. Et j'ai plus peur de la mort du tout.
Ouais. Renaud Évrard, est-ce que ce que nous confie Marie-France, ce qu'elle a vécu et ce que ça a déclenché après, est-ce qu'on peut assimiler ça à une expérience de mort imminente, à votre avis?
Bonsoir Marie-France.
Bonsoir.
Donc oui, ça pourrait être compris comme ça. C'est peut-être excessif, hein, je ne suis pas vraiment spécialiste.
Je pose la question.
Mais il y a une part possible, hein, comme parlait tout à l'heure... Pierre Massès concernant la voyance, de reconstruction, d'impression de déjà-vu ou de reconstruction après coup, d'une sorte de vécu subjectif pour assurer la continuité, pour pas se dire qu'on s'est éteint pendant 5 jours, en fait.
Oui.
Ça peut être une façon de voir. Après, ce qui reste très intéressant, c'est toutes ces modifications de la personnalité qui suivent, donc absence de perte, enfin, absence de peur de la mort, et puis de présence de nouveaux phénomènes paranormaux, les rêves prémonitoires, une envie aussi d'aider les autres, d'être plus empathique avec les autres. Ça, c'est vrai que pas mal de gens qui ont fait des NDE rapportent ces modifications.
J'ai toujours envie d'aider les gens, même les plus démunis, je fais que ça.
Mais dites-moi Marie-France, vous dites avoir changé vraiment beaucoup par rapport à la femme que vous étiez avant.
Ma maison, tout, j'ai tout, avec rien, je suis partie avec rien, j'ai tout laissé derrière moi, deux jours après, je me suis plus souvenue que j'ai habité là.
Ouais.
Et j'ai tout reconstruit, mais tout ce que j'avais auparavant, j'ai plus voulu le garder.
C'est-à-dire que vos valeurs d'avant avaient complètement changé.
Exactement, oui. Je vois tout autrement.
Oui.
Et maintenant, j'ai plein de choses qui m'arrivent. Je peux guérir même les gens. Je le fais pas trop parce que ça fatigue. Je les aide aussi à travers des cartes, à travers des choses comme ça.
Oui.
Et
vous
je ressens trop les choses.
Oui. Vous avez l'air de le prendre de manière très sereine, finalement,
très, très
ce
sereine.
Changement.
Oui, je suis très heureuse. Très heureuse dans mon cœur et je vois la vie différemment. Chaque jour suffit sa peine et j'aurais toujours apporté beaucoup de douceur autour de moi et quand je vois tout ce qui se passe, ça fait très mal aussi quelque part. Mais j'ai beaucoup de bonheur auprès de mes petits enfants que des fois je les soigne aussi. J'ai un petit qui a failli partir à l'hôpital en urgence et là je l'ai pris une journée et je me suis et puis il n'est pas parti.
Oui. Vous vous consacrez vraiment aux autres, quoi.
Ah oui, vraiment. Ben, j'étais assistante de vie hein, pendant 20 ans.
Oui.
Jusqu'à la famille, la maladie, le cancer, Alzheimer et tout. Je pourrais vous écrire un livre là-dessus. Il s'est passé quelque chose, de plein de choses.
Pierre Massias.
Oui. Bonsoir Marie-France.
Bonsoir.
Oui, ce que vous nous racontez ici, c'est typique des NDE. Des NDE de forte amplitude, je dirais. Ce besoin de tout quitter, ce changement de système de valeurs, c'est vraiment caractéristique. L'apparition de facultés parapsychologiques après cette expérience, c'est tout à fait caractéristique. D'ailleurs, vous aviez envie de vous documenter sur les NDE, si vous ne l'avez déjà fait,
oui, j'aimerais bien. Oui.
On peut toujours vous conseiller d'aller voir le site de Jans France, de prendre en contact avec Jans France. Leur site, c'est www.jans-france.fr. .com.
Ouais.
Demande à mon fils, qu'on a internet.
Oui, voilà, il trouvera très très facilement.
Moi, je l'ai pas, mais j'ai pas tout confié ça à mes enfants. J'ai perdu mon mari, j'avais vu par 3 épisodes qu'il allait partir, je savais à quelle date et tout. C'est très lourd à porter tout ça.
Ah, j'imagine, oui.
Il est parti, ça fera 3 ans à Noël, là, le Noël prochain, et j'avais vu les 3 épisodes de sa vie.
Ouais.
Et plein de choses comme ça, ça me prévient toujours, même sur mes.
Et ça, vous êtes obligé de le garder pour vous?
Ben, je parle pas beaucoup avec mes enfants et tout ça parce que c'est impressionnant quand même.
Oui, ah bah oui,
j'ai peur qu'on se moque de moi. moi, qu'on prenne pas trop. Et j'aimerais rencontrer, c'est pour ça que je vous ai appelé, parce que en fait, des gens qui ont vécu la même chose que moi. Mm-hmm. C'est lourd à porter, si vous voulez. Je sais que tout ce qui m'est arrivé en rêve provisoire, c'est tout réalisé. Oui, je ressens des fois dans la nuit, je me réveille, ça m'étouffe. Et je sais à qui ça va arriver. À mes petits-fils, ça m'est arrivé plusieurs fois. Mm-hmm. Et à chaque fois, ça s'avérait exact. Ouais. Et mes petits-enfants le ressentent maintenant. Ils ressentent que j'ai quelque chose, puisque à chaque fois qu'ils sont très malades, ils veulent que je m'occupe d'eux, et à chaque fois, je veux pas dire que je les guéris, mais il se passe plein de choses.
Oui.
L'autre fois, il a dû être hospitalisé d'urgence, le petit, je l'ai gardé 2 jours, il est pas parti, quoi. Et il m'a dit, mamie, j'ai plus mal. C'est très fort, quoi.
Ah ben, c'est un rêve d'avoir une mamie comme ça.
Non, oui, mais mais moi, j'explique pas à mes enfants pourquoi. J'explique pas. J'ai vécu des trucs assez durs avant mon coma, et je sais pas, et maintenant je suis plus la même. Mais je supporte pas les négatifs, je supporte pas les gens négatifs, je peux pas m'en approcher trop.
En tout cas, merci Marie-France d'avoir eu la gentillesse de nous rapporter
Moi qui vous remercie de m'avoir appelé, parce que ça m'a fait plaisir.
Et... écoutez, le plaisir est partagé.
Oui, j'aimerais partager ça avec d'autres personnes, bien sûr.
Merci et bonne route, Marie-France.
Au revoir, merci.
Merci. Marie-France qui était avec nous donc depuis Royan, presque au-dessus de Royan, ce qui est quand même largement au-dessus de notre zone. Hein. On a des gens qui nous écoutent en Haute-Loire, également à Paris. Je crois que le plus loin, c'est Taïwan, me semble-t-il, hein, Pierre.
Exactement.
Voilà. Oui. Il nous reste 2 minutes. Il nous reste 2 minutes. J'aimerais poser une question à Renaud Évrard et à toi, Pierre, qui est en corrélation avec ce que nous a dit Marie-France. Elle a subi un choc très fort, un coma donc, 5 jours, et ensuite des phénomènes paranormaux sont apparus, comme des rêves prémonitoires, etc. Est-ce que ça veut dire que nous sommes tous porteurs de ce genre de mécanisme en nous, mais que nous avons étouffé pour des raisons culturelles ou que sais-je, ou que d'autres, mais qui peuvent se déclencher à une occasion ou une autre? Il nous reste à peu près 45 secondes de réponse pour chacun. Renaud.
C'est pas mal ça. On sait pas trop comment ça apparaît au cours de la vie. Enfin, il y a tellement de variables. On sait pas, par exemple, dans ce cas-là, ce qui se passe, le changement de personnalité, si c'est un changement qui est psychologique, de l'expérience, ou physiologique. Mm-hmm. Et on a des cas, on a d'autres cas très troublants. J'ai pas le nom, mais une Russe qui était complètement perçue comme morte, c'est-à-dire qu'on l'avait même mise à la morgue, et en fait, elle était vivante.
D'accord.
Et elle est revenue à la vie et elle s'est rendue compte qu'elle voyait à travers la peau, elle voyait les organes des gens.
D'accord.
Et elle n'était pas du tout docteur avant et elle est devenue docteur malgré elle, en fait. Elle ne voulait pas du tout se servir de ça, mais elle voyait les problèmes qu'avaient les gens parce qu'elle voyait directement ce qui se passait dans leur corps.
Donc ce genre de mécanisme peut enclencher des phénomènes paranormaux.
Voilà,
Pierre Macias.
C'est ça. Mais on ne sait pas trop comment.
Ah oui, en fait. Ça, si on le savait, pauvre, on le ferait. Pierre Macias.
On ne va pas le conseiller, en fait.
Oui. 15 secondes. Non, on va essayer d'éviter le coma. Ouais, si on peut.
Oui, quand on parle de ce genre de phénomène, on parle souvent de dons. Surtout pour les personnes qui, comme les magnétiseurs ou les voyants, mais c'est un don comme on peut être, on a un don d'artiste ou on a un don de mathématicien. Ce sont des phénomènes qui sont abordés par l'étude scientifique d'une manière soit élitiste, c'est-à-dire qu'on va prendre, on va s'intéresser à un sujet qui produit des phénomènes de forte amplitude, ou de la manière
non élitiste,
c'est-à-dire que potentiellement, c'est-à-dire on va prendre tout le monde, on va essayer de trouver le petit la petite faculté chez tout le monde. Ça veut dire que effectivement tout le monde est susceptible
de produire
ce genre de phénomène un jour ou l'autre. Oui.
Merci Pierre Macias, merci Renaud Évrard de nous avoir accompagnés dans cette émission consacrée aux témoignages. Demain, à partir de 22h, l'émission sera consacrée au suaire de Turin avec des révélations scientifiques tout à fait étonnantes. Bonne nuit et à demain.
Sud Radio, les aventuriers de l'étrange, avec Louis Bénédi sur Sud Radio.